au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, et Jacqueline de Romilly, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone sur Canal Académie pour évoquer votre livre « Petite leçon sur le grec ancien » qui est paru aux éditions Stock. Alors, quel a été votre désir, Madame de Romilly, pour éveiller chez votre lecteur, susciter un désir de grec, de découvrir la langue grecque ?
Oui, sûrement. Et d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir. Je ne peux pas dire que c'était pour susciter. C'est né de notre amour commun pour notre enseignement de la langue grecque et le désir de le communiquer parce que c'est une source de joie pour nous et que nous désirons beaucoup que le grec qui a joué un si grand rôle et qui est maintenant en grand danger survive, profite, progresse et que par conséquent tout ce qui nous fait l'aimer davantage nous est précieux.
Il faut dire, Jacqueline de Romilly, en effet, que le « nous » dont vous parlez, c'est le co-auteur avec lequel vous avez écrit ce livre, « Petite leçon sur le grec ancien », c'est Monique Trédé. Comment s'est effectuée votre collaboration ?
Vous savez, elle a été très naturelle et c'est quelque chose de très précieux pour moi. Nous avons l'une et l'autre enseigné avec passion le grec tout au cours de notre vie. Alors au début, quand je l'ai connue, elle était une petite étudiante et mon expérience pouvait lui être utile. Et maintenant que je suis âgée, que je vois mal, que j'entends mal, c'est elle qui m'aide, qui me passe les renseignements. Mais nous partageons complètement cette joie d'enseigner le grec. Et par conséquent, écrire ce livre, c'était une façon d'essayer de la prolonger et de la faire partager.
Jacqueline de Romilly, nous allons tout à l'heure effectivement interviewer Monique Trédé, donc nous saurons aussi comment elle a vécu cette collaboration avec vous. Pour l'immédiat, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les qualités que vous trouvez à cette langue grecque ancienne ? Qu'est-ce qui fait sa beauté ?
Vous savez, je risque d'être fort éloquente sur ce sujet, parce que quand on a vécu au contact de cette langue sans cesse, comme c'est notre cas toutes les deux, on ne cesse de s'en émerveiller. Alors, si pour résumer tout simplement, dans le livre, nous parlons de différentes choses, du nombre, du genre, de la voix, etc., des possibilités du grec. Mais le résultat qui me paraît essentiel, c'est d'associer la précision et la souplesse. Et cette langue comporte des tas de précisions que nous indiquons le plus possible. Et grâce à ça, les auteurs sont très libres dans la place des mots, dans la composition des mots, dans les nuances des temps de verbe, etc. La précision des distinctions, la précision amène la souplesse et la facilité d'exprimer toutes les nuances d'une pensée.
Justement, Jacqueline de Romilly, dans ce livre, vous avez multiplié le nombre d'auteurs dont vous citez des exemples pour montrer la variété des styles. Vous avez parlé autant de Homère que des poètes tragiques, de Xénophon, des orateurs, de Platon, d'Aristote. Sans compter Thucydide, votre auteur chéri, bien sûr. C'était nécessaire de multiplier les auteurs pour pouvoir donner justement une idée de cette précision et de cette souplesse de la langue ?
Ce n'était pas nécessaire, mais c'était une joie. Je veux dire qu'à chaque fois, cela nous émerveillait et nous disions, en nous préparant à l'écrire, et on pourrait citer ceci, et on pourrait citer cela. Et le nombre des exemples, en montrant la variété, la richesse et la souplesse, je le disais, de cette langue, permet aussi de voir que cela s'est exercé dans des domaines très divers, avec des auteurs comme Thucydide que je nommais tout à l'heure, ou Platon, c'est un progrès d'ordre intellectuel dans la précision, dans l'analyse, dans la définition des mots, un progrès dont nous bénéficions encore aujourd'hui, parce que beaucoup de ces mots ont été forgés, les synonymes distingués, les notions mises en place chez ces auteurs de prose grecque. Mais en même temps, la même souplesse se marque dans des auteurs poétiques. Vous avez dit très justement qu'il y a des exemples assez nombreux d'Homère ou des tragiques. Ça, ce n'est pas la rigueur du sens des mots, mais c'est la force de suggestion qui se tire de l'ordre des mots, de leur choix, éventuellement dans les parties lyriques, de la composition, de l'invention de composer nouveau. Et il me semble que c'est très important, c'est d'ailleurs un fait qui s'illustre même dans la composition de la tragédie, puisque il y a une partie parler et discuter, serrant de près une situation, coupée par des parties lyriques, dites par le cœur, et un peu différentes de ton et même de langue.
Jacqueline de Romilly, quel est l'intérêt aujourd'hui de bien percevoir justement les finesses de cette langue grecque ancienne ?
L'intérêt, il est multiple. Je vous ai dit que c'était d'abord une joie, et je suis contente qu'elle soit partagée par le plus grand nombre possible de gens. L'intérêt, il est à plusieurs degrés. Je dirais que, prenant conscience de ces possibilités, de ces nuances diverses, on accède mieux aux auteurs, à leurs pensées, à leur intention générale. Dans les exemples que nous avons cités, la place de tel mot dans le début d'Homère ou l'invention de tel mot dans un dialogue de Platon, c'est un progrès qui nous fait comprendre l'importance de ce mouvement d'alors dans l'ordre de la pensée, de l'analyse et de la poésie. Mais en même temps, moi j'ai le sentiment que quand des jeunes lisent lentement un texte écrit avec soin comme ces textes antiques, en mesurant toutes les nuances, toutes les possibilités, toute la richesse de ce texte, ils apprennent aussi du même coup à mieux lire, à mieux comprendre, à mieux pratiquer leur propre langue, je veux dire le français, et que cela me paraît essentiel. Nous vivons dans une époque où le français est assez mal traité, assez mal parlé, assez mal écrit, et je crois que la pensée en souffre. Quand on voit ce que ça peut donner que l'attention aux détails dans ces textes grecs, avec la souplesse de ces textes grecs, ça vaut aussi pour l'art de l'expression en général, c'est-à-dire finalement de la pensée, d'analyse des sentiments en général. Vous voyez, je dépasse le grec pour aller au français.
Je le comprends tout à fait, je partage sans doute ce point de vue. Je vous remercie en tout cas de l'exprimer si clairement. Jacqueline de Romilly, je rappelle le titre de votre livre, Petite leçon sur le grec ancien, que vous avez rédigé avec Monique Trédé, que nous allons maintenant entendre dans l'entretien qui va suivre. Ce livre est paru chez Stock. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir participé avec nous à cette émission par le téléphone.
C'est moi qui vous remercie et vous remercie de l'émission et de l'aide que vous nous apportez, dont nous avons besoin. Merci,
merci
de tout cœur.
Merci à vous. À bientôt, madame.
Merci. Au revoir.
Madame, monsieur, bonjour. Si Canal Académie, dès ses débuts, a été soutenue par Jacqueline de Romilly, membre de l'Académie française et en tant qu'helléniste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Canal Académie, à son tour, soutient le combat de Jacqueline de Romilly en faveur de l'étude des langues anciennes. Et nous proposons régulièrement des émissions pour les défendre et en expliquer l'utilité dans la formation intellectuelle. C'est ainsi que vous pouvez trouver plusieurs émissions enregistrées avec des grands noms de la science, membres de l'Académie des sciences, qui expliquent comment l'étude du latin et du grec a contribué à la formation de leur esprit scientifique. C'est ainsi aussi que vous pouvez écouter plusieurs émissions avec Jacqueline de Romilly. Et c'est pour cette même raison que Canal Académie s'est fait le partenaire du festival latin-grec qui se tient à Nantes et qui est animé par notre amie Elisabeth Antebi. Dans cette émission, c'est moins de l'utilité des langues anciennes que de leur beauté que nous allons parler. J'ai le plaisir, en effet, de recevoir Madame Monique Trédé, qui a rédigé, avec Jacqueline de Romilly, un ouvrage original sur les beautés de la langue grecque. Il s'intitule « Petite leçon sur le grec ancien » et il est paru fin 2008 aux éditions Stock. Madame Trédé, bonjour.
Bonjour, chère madame.
Vous animez à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris le Centre d'études anciennes, le CEA. Alors un petit mot sur ce centre pour nous le situer.
Alors ce Centre d'études anciennes réunit les spécialistes de littérature grecque et latine au sein d'un département qui est plus large, qui est le département des sciences de l'Antiquité. Car l'originalité de l'enseignement de ces langues et de cette littérature à l'École normale supérieure est que nous nous efforçons de ne pas séparer l'étude des textes, donc qui fait l'objet de l'enseignement au Centre d'études anciennes, de l'étude des réalia, c'est-à-dire que les archéologues, les historiens de l'Antiquité, les philosophes de l'Antiquité et les littéraires purs, comme on dit, ainsi que les spécialistes de linguistique comparée des langues indo-européennes, que sont le latin et le grec, travaillent ensemble dans ce centre. C'est l'originalité de la formation que nous essayons de donner à nos élèves de l'École normale supérieure.
Alors ces élèves, j'ai tout de suite envie de vous demander, ils sont combien à étudier le latin grec ?
Alors ces élèves, d'abord le grand concours littéraire qui admet chaque année 75 élèves à l'école, exige la connaissance d'une langue ancienne, soit le latin, soit le grec. Et un quart d'entre eux pratiquent encore les deux langues anciennes. Alors nous ne leur interdisons pas bien sûr de devenir des spécialistes de la littérature du XVIIe siècle français. Généralement nous avons à peu près 20% d'une promotion, un cinquième d'une promotion qui reste fidèle à ces deux grandes civilisations que sont la Grèce et Rome. Si bien qu'au sein du département, puisque la scolarité à l'école dure de 4 à 5 ans, conduit souvent jusqu'au début de la thèse, nous avons une centaine d'élèves qui véritablement reçoivent l'essentiel de leur formation au sein de notre département.
Certes, c'est sans doute moins abondant en nombre qu'il y a une cinquantaine d'années, mais c'est tout de même pas rien, une centaine.
Ça n'est pas rien, nous sommes d'accord.
Bon, alors on se réjouit. Voilà déjà une première occasion de se réjouir. Je voudrais dire aussi, Madame Trédé, que vous êtes l'auteur d'une histoire de la littérature grecque parue aux éditions PUF et que vous avez donc écrit ce livre avec Jacqueline de Romilly, Petite leçon sur, et non pas de, sur le grec ancien. Comment vous est venue l'idée de travailler toutes les deux ensemble ?
Alors, cette collaboration est très ancienne. D'abord, comme jeune étudiante, j'étais absolument fascinée par l'intelligence de Thucydide. Et lors de ma deuxième année d'école normale supérieure, je suis allée voir Jacqueline de Romilly et je lui ai dit « Madame, je voudrais travailler sur Thucydide ». Ceci devait être dans les années, ça ne nous rajeunit pas, 65-66, voyez. Et ayant fait ce mémoire sous la direction de Jacqueline de Romilly, j'ai continué à travailler avec elle très naturellement. Donc, vous voyez que cette collaboration remonte assez haut. Le hasard a fait que j'ai été assez tôt jeune assistante à Aix-en-Provence, où Jacqueline de Romilly retrouve certaines racines méditerranéennes et grecques. Et donc, là, nous avons tissé des liens, je dirais, plus amicaux, certainement, dans ce cadre merveilleux des environs de Sainte-Victoire. Et très naturellement, lorsque j'ai écrit ma thèse, écrit l'ouvrage que vous avez cité, les articles, j'en ai toujours parlé très naturellement avec Jacqueline de Romilly, qui avait guidé l'essentiel de mes travaux jusqu'à la soutenance de thèse. Et ces dernières années, puisqu'elle a plus de mal à écrire, bien sûr, elle ne peut plus écrire puisqu'elle travaille avec des cassettes enregistrées. Elle m'a un jour dit « Monique, il faut absolument que nous fassions un livre ensemble ». Et nous avons réfléchi et à la grande surprise de la jeune femme des éditions Stock qui voulait que nous lui parlions de la morale antique, de la politique antique. Nous lui avons dit, écoutez, ceci, vraiment, vous avez 1000 ouvrages qui parlent de ça un peu partout, en France et ailleurs. Pourquoi ne pas faire quelque chose sur la langue grecque ? Et l'idée nous est venue ainsi et nous avons écrit ce petit livre sur la langue grecque.
Alors, cette langue grecque, justement, vous commencez par expliquer dans ce livre qu'elle ne se parlait pas uniquement dans ce que nous considérons aujourd'hui comme la Grèce, mais qu'elle était véritablement en expansion dans tout le bassin méditerranéen, finalement, et même au-delà. Alors, elle avait un grand rayonnement.
Exactement. C'était vraiment une langue de civilisation. Et nous sommes absolument admiratifs, lorsque nous en parlons avec Jacqueline de Remilly, de constater qu'au fin fond de l'Asie centrale, on trouve des gymnases grecs avec des inscriptions grecques. Et cette civilisation grecque a vraiment eu une diffusion, une extension extraordinaire, et ensuite était accueillie, enfin acceptée, avec parfois quelques tensions et quelques difficultés, mais enfin vraiment popularisée également par la civilisation de Rome. Si bien que jusqu'à la fin de l'Empire romain, le grec est la langue de culture.
En effet, vous le dites dans votre livre d'ailleurs, les grands noms de Rome parlaient entre eux en grec, forcément en latin. Pas uniquement.
Et oui, Brutus, n'est-ce pas ? On pense que César lui a dit en grec, toi aussi mon fils.
Ah, voilà. Alors là, c'est une révélation. Et oui. Madame Trédé, si vous le voulez bien, dans ce livre qui comporte plusieurs chapitres, bien sûr, vous détaillez les merveilles de la langue grecque ancienne et vous essayez d'en donner les principales caractéristiques. Nous ne pouvons pas tout développer ici dans cette émission parce qu'on voudrait que les auditeurs achètent ce livre passionnant et qu'ils se plongent dedans, mais au moins on pourrait aborder trois particularités dans les mots de cette langue, la désinence, si vous allez nous expliquer ce que c'est, dans la déclinaison des mots, l'importance d'un cas que nous n'avons pas dans la langue française, où nous n'avons que le masculin et le féminin, le neutre. Ce n'est pas un cas d'ailleurs, c'est un genre. Voilà. Et les verbes, ils ont aussi une particularité. Nous avons la voix active, la voix passive, et en grec, il y a la voix moyenne. Alors, on va se plonger dans la langue grecque ensemble. Commencez, si vous le voulez bien, par nous expliquer la langue à flexion.
Alors, nous parlons de langue à flexion pour désigner des langues qui indique par des désinences la fonction du mot dans la phrase. Je m'explique. Nous, en français, nous disons « j'aime le chocolat ». Bien. Eh bien, le grec, lui, et la place des mots dans la phrase est évidemment fondamentale pour le sens. Le grec, lui, peut jouer avec la place des mots, car le chocolat ayant la fonction, dans cet exemple, de complément d'objet, aura une désinence propre qui est celle de son cas. Le cas du complément d'objet, c'est l'accusatif. Donc, une désinence d'accusatif. Le sujet, lui, aura une désinence de nominatif et le verbe se reconnaîtra comme verbe conjugué. Le résultat est qu'on a une liberté dans l'ordre des mots qui permet des effets de sens que nous avons perdus en français. Et l'une des amusements de ce petit livre était de montrer combien la traduction française de vers grec ou de phrase grecque amène à des précisions et une dilution pour aboutir au même résultat. L'ordre des mots est si expressif en grec qu'il permet une expression synthétique et des effets de mise en relief que nous devons rendre, nous, en ajoutant et en alourdissant la phrase. Antigone, imaginons dans l'Antigone, dit « je ne préfère rien à la justice », eh bien, nous aurons en grec trois mots. Et en français, nous aurons une nécessité de développer cette expression synthétique parce que nous sommes contraints à un ordre très précis des mots, alors qu'en grec, on pourra mettre, par exemple, le terme de justice en valeur en tête, si on le souhaite.
Alors, il y a combien de cas pour les noms ou les mots en grec ?
Alors,
ancien.
Nous partons de l'indo-européen qui avait 8 cas, le grec a simplifié, et il y a le nominatif, l'accusatif, le vocatif qui n'est pas un cas, qui est une manière d'appeler, le génitif et le datif en grec. Donc, on se retrouve avec un système de 5 cas.
5 cas, très bien.
Plus des prépositions. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est cette liberté dans l'ordre des mots que permet la langue à flexion.
Alors, une grande liberté, c'est déjà une caractéristique qui, évidemment, on le suppose, va permettre des beautés d'écriture dans les chefs-d'œuvre de la littérature grecque. Deuxième caractéristique, justement, dans les déclinaisons, Le neutre.
Le neutre. Alors, un mot encore, si vous voulez bien, sur l'ordre des mots, parce que vos auditeurs auront sans doute en tête l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des épopées si merveilleuses, sans doute un des sommets de la littérature, de la poésie mondiale.
J'en soupçonne quelques-uns d'être capables de les réciter par cœur.
Justement. Eh bien, si on prend le premier vers de l'Odyssée, Andramoy et Népémousin, on voit très bien que c'est Ulysse qui va être le héros de l'Odyssée. Il apparaît en tête comme premier mot du poème « Andramoy, dis-moi, muse, l'homme », mais l'homme en tête du vers. Et cet homme sera défini à la fin du vers par son adjectif « l'homme aux mille ruses ». Donc le thème même du poème est ainsi défini dès le premier vers, encadrant le vers avec des accusatifs. Alors que je crois que nous citons dans ce petit livre plusieurs traductions, dont celle de Victor Bérard, il est évident que le français, pour garder cet effet de relief, doit développer. Alors le neutre, vous me posiez des questions sur le neutre. Le neutre, c'est une grave question en français, comme vous le savez. En grec, c'est très simple, le neutre désigne des fonctions, des éléments inanimés, et la langue, là aussi, en tire des effets stylistiques tout à fait frappants. Toujours dans l'Iliade, si chère à mon cœur, Achille, au moment où il apprend la mort de Patrocle, dira « Que suis-je ? Je ne suis plus rien, je suis un fardeau pour cette terre. » Et la transformation de l'être humain du héros, Achille, en fardeau inutile pour cette terre est rendu en grec par
le
un neutre.
Voilà. Qui fige. Était un nominatif.
Nous avions un héros nominatif
sujet,
et nous avons un neutre. Alors ce neutre est merveilleux et en français nous ne l'avons pas et vous voyez dans quelle difficulté ça nous met. Lorsque tout le problème de la féminisation des noms de fonction est lié à cette absence d'un genre spécifique neutre. Alors les traditionalistes comme je puis sembler l'être sur ce point, vous diront que c'est assez agréable et amusant de penser qu'au fond, c'est le masculin qui est l'équivalent du neutre en français. Et pour ma part, en tant que femme, que le neutre soit masculin m'amuse plutôt.
Mais il l'emporte toujours. Et c'est là que le bas blesse.
Quand c'est le neutre, chère madame. Donc, mais sinon, on va au-devant de difficultés sans nom, n'est-ce pas? Si au lieu de dire français, en considérant que ce français est au fond un neutre, qui inclut les françaises du sexe féminin et les français du sexe masculin. Si l'on dit française, français, vous êtes, alors faudra-t-il ajouter, belle, beau? Dans quelle difficulté grammaticale nous entrons ? Donc là, nous avons un vrai problème qui n'existe pas en grec. Donc en grec, nous pouvons avoir une très grande précision grâce à cet emploi du neutre qui, par ailleurs, peut être substantivé et donc ne se limite pas à désigner tel ou tel objet, fonction, rôle, mais peut aussi se permettre de substantiver des phrases entières, des propositions entières, un verbe à l'infinitif, le fait de. Alors que vous voyez, en français, nous aurons le fait de, ce qui est évidemment très lourd. En grec, il suffira de mettre l'article neutre devant l'infinitif et nous aurons l'idée verbale qui ressort telle qu'elle, bien en évidence.
Avec Monique Trédé, nous feuilletons son ouvrage « Petite leçon sur le grec ancien », ouvrage co-rédigé avec Jacqueline de Romilly, paru aux éditions Stock. Si vous le voulez bien, on se retrouve dans un court instant après une brève pause.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Retour dans notre studio en compagnie de Monique Trédé qui a co-rédigé avec Jacqueline de Romilly, Petite leçon sur le grec ancien, paru aux éditions Stock, et qui nous dévoile quelques-unes des merveilles de la langue grecque ancienne, et notamment cette merveilleuse liberté. Alors, après avoir étudié la désinence et puis le cas du neutre, nous en venons maintenant au verbe. Alors, ces verbes, ce n'est pas seulement actif ou passif, il y a une voie entre les deux qu'on appelle moyenne. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette voix moyenne ?
Alors, cette voix moyenne, le français s'en passe fort bien, mais en réalité, elle permet des nuances de sens qui sont tout à fait précieuses pour l'expression de la pensée. Je vous donne quelques exemples. Un certain nombre de verbes sont intrinsèquement liés à l'existence de la personne. Par exemple, j'ai dans l'esprit que, par exemple, je deviens. Eh bien, ces verbes seront très naturellement présentés en grec au moyen, car la personne qui les utilise est étroitement impliquée dans le procès qu'il désigne. Je grandis, je pousse, je me rends compte, j'ai conscience de, tout ceci sera directement au moyen. Lorsqu'il y a une possibilité de choix entre l'actif, le moyen, et le passif, qui n'est jamais qu'une spécialisation du moyen, eh bien, là aussi, le grec en tire des effets de sens tout à fait intéressants. Je prends toujours pour amuser mes étudiants l'exemple du terme qui signifie « prendre pour épouse ». En général, lorsque la femme est prise pour épouse, c'est l'homme qui la prend pour épouse, et donc l'homme utilise un verbe à l'actif. Et la femme utilise le même verbe au moyen. Bon. Mais à partir de là, il y a des effets stylistiques qui sont lourds de sens. Lorsque Médée évoque son union avec Jason, et l'union nouvelle que Jason, qui vient de la quitter, s'apprête à conclure avec la fille du roi de Corinthe, eh bien, elle joue des voix du verbe épouser, ironisant face à son ex-époux, et lui demandant « Est-ce moi qui me marie avec un actif ?» Or, cette forme « à l'actif » dans une bouche féminine est évidemment d'une ironie très lourde. Donc, vous voyez qu'il y a des effets de sens qui sont liés à l'existence du moyen, qui évidemment sont tout à fait précieux.
Et je suppose que les grands auteurs, enfin, on pense évidemment à Eschyle ou à Euripide, ont joué justement sur cela pour faire rire même ou faire pleurer.
Exactement. Et alors, les comiques aussi, Aristophane, bien sûr. Le grand comique de l'Antiquité tire des effets comiques de ses emplois du verbe. Il y a un point sur lequel vous ne m'interrogez pas, mais sur lequel j'aimerais quand même dire quelque chose, car c'est sans doute ce qui, dans notre français, encore aujourd'hui, porte l'empreinte du grec, c'est dans les modes de formation des noms et de dérivation. C'est un des points sur lesquels nous aimons à plaisanter Jacqueline de Remilly et moi-même. Nous disons, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que le français, c'est du grec. Et bien sûr, nous avons plaisir à nous réconforter de cette manière, mais ça n'est pas entièrement faux. Le grec a cette caractéristique d'avoir eu des systèmes de dérivation et de formation des noms parfaitement précis et logique. Nous avons hérité, par exemple, du grec, tous ces mots qui désignent des sens et qui sont des adjectifs en « ic », n'est-ce pas ? La physique, la mathématique, la logistique, tous ces mots en « ic » nous viennent directement de cette suffixation en « icos », des mots grecs qui a été mise au point par la sophistique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on oublie trop souvent que nombre de nos catégories intellectuelles, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous méditons sur tel ou tel problème philosophique, eh bien, nous sommes les héritiers des catégories intellectuelles du grec. Ça, c'est un point qui est trop souvent oublié et qui pourtant me semble absolument fondamental. Alors, Jacqueline de Remilly aime à dire que dans nos abréviations même, nous restons très grecs, et elle évoque en souriant « on mange aujourd'hui bio ». On mange bio. Oui. Eh bien, bio, c'est le mot grec bios qui veut dire vie, n'est-ce pas ? Et donc, on mange biologique, c'est une abréviation, c'est le discours qui concerne la vie. Et en effet, lorsqu'on mange bio, eh bien, on parle grec, en quelque sorte.
Voilà, ça va nous rassurer. Alors, déjà, on fait des progrès, vous voyez, grâce à vous. Madame Trédé, cette langue grecque, vous l'aimez, vous la défendez, vous l'enseignez. Beaucoup encore.
Avec grand plaisir, toujours, oui, à mes agréatifs, à mes thésards.
Bon, oui. Alors faites-nous un peu partager cette passion.
Alors premièrement, cette passion, c'est cette langue grecque a servi une littérature extraordinaire. Le paradoxe, mais aussi l'enjeu, si vous voulez, de ce petit livre, c'était de montrer que si cette littérature est si extraordinaire et garde aujourd'hui une actualité qui, à mon avis, se maintiendra encore très longtemps, eh bien, c'est grâce à cette langue et à ces catégories intellectuelles que porte la langue, à la précision de cette langue, au jeu qu'elle permet, et aussi, alors je dirais que là, c'est une autre grammaire dont nous parlons peu, puisque nous avons fait, de ce point de vue, un livre vraiment centré sur les catégories linguistiques, mais il est évident que parler de l'amour avec le mot « eros », ça donne à chacun des mots utilisés une aura, si vous voulez, ou un halo, je ne sais pas, qui évidemment, apporte quelque chose. Ce n'est pas simplement un concept sec, c'est aussi par derrière ces images de la mythologie que nous avons, j'espère encore, pour nombre d'entre nous en mémoire et qui rendent certains aspects de la beauté et de la grandeur du monde.
Amour qui, en grec, a trois mots quand nous n'en avons qu'un.
Absolument. Eros, agapé, philia. Donc, sur ce point aussi, la langue grecque est à l'origine de nombre de méditations et de textes de toute beauté.
Vous nous avez fait rêver avec le grec ancien et on peut prolonger cette méditation en se plongeant dans votre livre, Monique Trédé, avec Jacqueline de Romilly. Petite leçon sur le grec ancien, paru aux éditions Stock. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.